Bonjour à vous toutes et tous. Soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de L'Or des Curieux, émission écrite et présentée par Robert Giroux. Aujourd'hui, nous commémorons, oui, mais nous commémorons le vivant, la musique, et le génie de compositeur et d'instrumentiste d'Astor Piazzolla. Musique de feu, de sang, de joie, de drame, musique savante, mais primale, musique pulsatile, aux longs et enivrants phrasés, musique du vertige, une danse au bord du vide, musique nous fouettant les sangs et nous ramenant, encore tout étourdi, tout ébloui, sur le rebord. Astor Piazzolla aurait 100 ans aujourd'hui. 100 ans, c'est le bel âge. Je sais, j'arrive un peu tard pour l'anniversaire. Je suis le dernier arrivé des convives, mais que voulez-vous ? C'est ma marque, je n'y peux rien. Toujours à la traîne, bon dernier, traîne patin, et je n'ai même pas de mot d'excuse. Par contre, j'ai de la musique plein les bras. Piazzolla, par celle et ceux qui l'ont interprété, le font vivre aujourd'hui. Et là, quelque chose me dit que nous allons nous entendre. Que restera-t-il de nous lorsque la vie ne nous tiendra plus dans ses comptes, quand nous serons, comme le dit le livre, retournés poussière ? Parlant du monde artistique, on évoque souvent le désir d'une certaine chose que l'on nomme bien pompeusement l'immortalité. L'immortalité, rien que ça. Vieille lune qui revient de loin en loin tarauder le bon entendement des humains. Pour cela, certains seraient prêts au pire, mentir sur ce qu'ils sont, mentir sur la réalité de leurs actes, mentir sur leurs conditions. Il y a naître, il y a vivre, il y a mourir. Et vivre, c'est accepter le postulat de base de tout cela, consentir au temps et à ses lois, et admettre en simplicité que ce qui nous fut donné un jour soit redonné à d'autres, et qu'ils en goûtent à leur tour le fruit, comme nous l'avons fait. Il est plus que normal, il est simplement humain qu'un musicien, qu'un compositeur souhaite ne pas avoir travaillé en vain, que sa musique soit souvenue donc, et rattachée à son nom. Pas plus que quiconque ne serait justifié à abandonner ses enfants, un compositeur n'abandonne jamais sa musique. Il souhaite toujours le meilleur pour elle. Il n'y a aucune vanité en cela, c'est seulement de la prévenance, du soin. Qu'une musique survive ou non à celui ou à celle qui l'a composée, personne n'en décide. Sinon une certaine façon d'avoir fait les choses, d'avoir vécu la musique et peut-être de l'avoir partagée. Ainsi, certaines et certains musiciens, musiciennes, restent-ils dans la mémoire commune ? Je vous parlais le mois dernier d'Hildegard von Bingen, 11e siècle, l'une des premières figures féminines dont on célébra l'esprit, le génie, les visions, le sens de l'universel, l'écriture, la musique et la science de vie. De celles et ceux à qui échoit cette singulière destinée, à savoir que leurs noms et leurs actions leur survivent, il faut simplement penser qu'ils ont usé de leurs esprits et de leurs dispositions avec sagesse et discernement. Mais rien n'en fera jamais des créatures de triomphe. Ils ou elles sont hommes et femmes tout simplement. Là est leur seule grandeur, et c'est la grandeur de tous. Tout le monde est grand, ou bien personne ne l'est. La gloire individuelle est une lubie, une funestinerie. S'il est une vanité dans le monde artistique, elle se tient ici, à vouloir la gloire individuelle. Je me trouvais il y a de cela une poignée de jours au théâtre d'Orléans pour y écouter Juan José Mussolini, le grand musicien et compositeur argentin, qui célébrait en ces lieux le centenaire d'Astor Piazzolla. Dès la première note qui sortit de son bandoneon, il était clair que Piazzolla, mort il y a quelques années de cela, n'avait pas encore quitté ce monde et n'était pas prêt de le faire. Le chant de cette musique, ses structures tellement particulières, avec ses poussées de fièvre, ses emportements, ses instants d'une paix presque lunaire, ses harmonies comme sorties de terre, tout cela faisait une musique dont nous avons toujours le plus grand besoin. Une musique qui connaît nos chagrins, nos émerveillements, ce par quoi nous brillons ou bien ce par quoi nous nous brisons. Musique des tréfonds, des fins fonds de l'âme, musique blessée, qui va chercher son souffle dans le fond du ventre, les entrailles, le dernier ressac qui s'y trouve. Je ne sais pas s'il est au monde musique plus vitale que celle-là. Astor Piazzolla fut avant toute chose un compositeur, et quoique l'homme fût plutôt conservateur, ou plutôt excessivement prudent, devrait-on dire, le compositeur qu'il était s'illustra avant tout par l'esprit de réforme et de progrès. Ici se tient une ligne de partage des eaux, ce qui peut être reproché à l'homme. Son conservatisme, son silence face aux souffrances du peuple argentin sous la dictature. Il faut se souvenir, par exemple, que lors de la Coupe du monde de foot de 1978, il a participé aux festivités organisées par la dictature. Ça lui a été beaucoup reproché. Et puis face à cela, il y a sa musique, comme une respiration géante. Cette inspiration est la force du souffle propulsé comme un élan de vie, comme un sursaut, comme une révolte. Piazzolla fut donc contradictoire, ceci signifiant d'abord qu'il était double, comme le sont souvent, pour ne pas dire toujours, ceux et celles qui se sont donné mission d'être compositeurs de musique. Une œuvre, cela exige du temps. Une œuvre ne peut être bâclée, expédiée à la diable, comme on jette un crachat sur un mur. L'œuvre est longue, toujours, l'œuvre est lente. Qui dit le contraire n'a même pas commencé d'écrire de la musique et ne sait même pas ce que c'est. Je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai écouté la musique d'Astor Piazzolla. C'était un moment de la vie, comme nous en connaissons tous et toutes à des degrés divers, une séparation. Et cette musique venant de nulle part, je n'en connaissais pratiquement rien à l'époque. Cette musique savait tout de moi, savait où se tenait ma peine et savait comment me l'arracher. La première secousse fut violente, intense, et d'emblée, la marque que me laissait cette musique ne ressemblait à aucune autre. J'avais découvert un trésor inca, l'une des merveilles de ce monde, le tango nuevo. Ce que cette appellation renferme réellement, nous y reviendrons. Mais pour l'instant, allons recueillir la parole du maestro Piazzolla. Thank you. Comment une musique orientée à ce point sur la danse a-t-elle bien pu toucher, et pareillement, quelqu'un comme votre serviteur, un fichu de danser et pourvu deux pieds gauches à chaque extrémité? Je suis par définition le danseur impossible, l'empoté, le balourd, l'enclume, dansant comme un bahut si tant est que les bahuts dansent. Mais dans chaque danseur impossible, il y a le danseur intérieur, le danseur rêvé, libre celui-là, et ne sachant aucune limite. Et le fait d'avoir le corps sanglé, inapte au mouvement, donne une réceptivité particulière à cette musique, comme si elle nourrissait en nous le danseur intérieur, comme si elle donnait vie à tout ce qui nous est impossible, comme si elle nous offrait des ailes. Je parlais de souffle tout à l'heure. Il est partout dans le tango, nuevo ou pas. Souffle expulsé, souffle rendu, souffle repris, puis expulsé de nouveau. Souffle protecteur, salvateur, souffle chaud, puis souffle sec, bref, soudain, qui nous emporte. Danse déliée, souple, féline, au mouvement presque dessiné, graphique. Le tango, lorsqu'on ne peut pas le danser, est une beauté à voir. Je n'ai jamais compris comment et pourquoi certains ont pu s'offusquer qu'une danse exprime un élan vital, exprime le don de la vie même, quand c'est sa raison d'être, sa fonction principale. Dans le passé, dans l'histoire de la musique, la danse a toujours eu une part, une place réservée, son importance est première dans ce que l'on nomma la suite instrumentale, la gigue, l'allemande, la courante. Il y eut aussi les estampilles royales, la volta, danse de cour ou bien danse d'époque, elles seront audibles ensuite dans la sonate. Piazzolla est majeur en ce qu'il poursuit, qu'il pérennise l'impact, la trace de la danse en musique et qu'il en tire une forme indéniablement nouvelle. On peut bien entendu tracer des lignes à travers l'histoire du tango, comme à travers celle du jazz ou d'autres musiques latines, mais Piazzolla fait œuvre originale et fortement. Ne pas le reconnaître serait s'avilir, faire preuve de petitesse. Bien sûr que l'originalité existe en musique, bien sûr qu'il faut la signaler, l'admirer, la louer et l'appeler de ses vœux, et ne jamais consentir à cet esprit de la tambouille, du râtelier pour tous, du libre service au premier venu. Piazzolla nous rappelle aux plus hautes fonctions de la musique, et il fait cela en réussissant l'exploit de rester populaire dans l'âme et de faire d'une expression populaire et très locale une véritable valeur universelle. Alors prêtons l'oreille aux interprètes de Piazzolla, au premier rang desquels Juan José Mussolini, qui sera, je vous le rappelle, le 10 juin à Chartres. Mussolini qui joue Piazzolla depuis toujours, et spécialement ces temps-ci à l'occasion du centenaire. Nous allons écouter Juan José Mussolini. Une bonne compréhension du mot « influence » implique que l'on se forge une personnalité et un langage à soi. Et c'est ce que fait Mussolini, dont le style est riche de plusieurs apprentissages et expériences. Il y a d'abord sa vie propre, et puis la marque de son père, musicien aussi, et qu'il forma à la musique par son exemple et par sa proximité. Mussolini est une plume remarquable, un style brillant, très chantant, finement nuancé, très intérieur. Son jeu est infiniment généreux. Nous l'écoutons. Thank you. Parlant de Piazzolla, nous savons tous qu'un arrêt sera nécessaire, que dis-je, indispensable à la station Galliano. Cannes-sur-Mer, tout le monde descend. Richard Galliano, auquel j'ai déjà consacré un numéro entier de l'Ordre des Curieux. Il fut l'ami et l'interprète d'Astor Piazzolla qui lui a dédié une œuvre et non des moindres, un ballet tango de toute beauté. Mais j'ai choisi pour aujourd'hui de vous donner à entendre un extrait de trois pièces pour le piano qu'avait composé Piazzolla et que Richard Galliano a transcrit pour l'accordéon solo. Transcription de haut vol, rigoureuse, sensible, dans laquelle transparaît tout le génie musical de Richard Galliano.
Thank you.
Piazzolla a donc écrit pour divers instruments et diverses formations, comme tout compositeur qui se respecte. L'un des instruments qu'il a sans doute le mieux traité est la guitare. Il écrivait pour la guitare directement. Ses œuvres pour guitare ne sont donc pas des transcriptions, même si beaucoup de ses œuvres furent a posteriori transcrites pour la guitare. Et là encore, la symbiose avec l'esprit et la voix de la guitare était parfaite. Piazzolla avait indéniablement quelque part en lui une sensibilité de guitariste. Toute sa musique coule parfaitement sous les doigts du guitariste. Transcrire, c'est souvent, sinon trahir, du moins n'avoir qu'une vue partielle et lointaine sur une œuvre, n'en souligner, n'en extraire qu'une seule particularité. À l'image de ce qui se produit pour Scarlatti, la musique de Piazzolla est chez elle, ou tout comme, sous les doigts d'un guitariste. Je ne crois pas qu'il y ait un seul guitariste classique au monde qui n'admire et ne chérisse Astor Piazzolla. Il est aimé et joué de tous. Autant dire que ce fut un crève-cœur que de vous choisir une interprétation plutôt qu'une autre. Comme tous les grands compositeurs, Astor Piazzolla fait jaillir la beauté et le génie des mains de ses interprètes. J'ai choisi pour aujourd'hui que nous écoutions le duo des frères Assad, Sergio et Oder Assad, deux musiciens magnifiques et qui ont toujours ouvert leur répertoire en grand au maestro Piazzolla, lui consacrant des enregistrements entiers. Nous les écoutons à présent dans Escolasso, les frères Assad. Thank you. clore cette émission, je vous propose que nous restions dans la compagnie des interprètes de Piazzolla. De tous les compositeurs du XXe siècle, il fut parmi ceux et celles qui eurent le plus d'interprètes et de grands interprètes, que l'on pense simplement à Gidon Kremer ou à Yo-Yo Ma. Ceci s'explique sans doute par la largeur du spectre couvert par sa musique, du classique au jazz, à la musique populaire ou contemporaine. Sa musique est, cela quel que soit l'instrument concerné, un véritable challenge d'interprète, tant il y faut maîtriser de paramètres, faute d'un meilleur terme. Piazzolla a le tranchant de Stravinsky ou de Bartok, il a la volupté de Ravel et de toute l'école française du début XXe, la mélancolie du chant populaire et un sens de l'aventure, du risque, de l'exploration, porté à un degré d'intensité rare. Sa musique a le don particulier de s'adapter à tous les types d'instruments plus possibles. Plus encore, elle semble à chaque fois n'avoir été conçue que pour eux. Il y a trop à dire sur Piazzolla. Seule la musique s'avérera apte à le faire. Je vous dis à très bientôt sur le 106.8. Au revoir. À présent, musique.